ton universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde Aujourd'hui, édition du jeudi 13 mars en direct du studio 13 à Washington. Au micro Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil. Bonsoir Chérubin.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Au sommaire ce soir, amélioration de la sécurité à Bangui d'après la force française Sangaris.
Maintenant, je pense qu'une opération de maintien de la paix est absolument nécessaire pour pouvoir aller beaucoup plus loin.
En France, le procès du présumé génocidaire Pascal Simbi Kangwa pourrait prendre fin demain.
Ils ont adopté une défense finalement assez classique en minimisant et le rôle et l'action et la place de Simbi Kangwa.
Dossier ukrainien, les mises en garde se multiplient contre l'annexion de ce territoire par la Russie. Peut-être un nouveau moyen de protection contre le VIH. Sans oublier nos pages sport et musique, mais avant, le journal.
En Centrafrique, la force Sangaris assure que la situation sécuritaire s'est nettement améliorée à Bangui. Le général Francisco Soriano, commandant des forces françaises, reconnaît par ailleurs qu'une mission de maintien de la paix de l'ONU est d'une importance capitale. Le point avec Nicolas Pinault.
Oui, le général français a fait cette mise au point aujourd'hui lors d'une conférence de presse. Pour le commandant des forces françaises, la crise en Centrafrique est d'une très grande complexité. L'État n'existe pas, absence de ressources, crise humanitaire réelle, souffrance des populations et prolifération d'armement. Même si la sécurité tend à revenir dans la capitale, une mission de maintien de la paix de l'ONU est urgente, reconnaît Francisco Soriano.
Sangaris, comme la MISCA, ont répondu tout de suite dans l'urgence. Maintenant, au fur et à mesure qu'on consolide, on se déploie pour pouvoir amener la sécurité. Maintenant, je pense qu'une opération de maintien de la paix est absolument nécessaire pour pouvoir aller beaucoup plus loin.
Alors qu'un semblant de calme règne à Bangui, de nouvelles violences sont signalées dans le nord du pays. Au moins une dizaine de civils, dont une femme de 72 ans, ont été tués par des rebelles de Babalade au village de Koki, un marché hebdomadaire situé à 60 km de Markunda.
Par ailleurs, un membre de la Commission internationale d'enquête de l'ONU a rebroussé chemin un jour seulement après l'arrivée de la délégation dans la capitale centrafricaine. Selon une source proche du bureau local des Nations Unies, le Mexicain Jorge Castañeda est rentré pour des raisons personnelles.
Toujours concernant la République centrafricaine, trois hauts responsables européens effectuent une visite conjointe dans le pays aujourd'hui et demain. Il s'agit du commissaire européen au développement Andris Piebalgs, du ministre français du Développement Pascal Canfin et du ministre allemand de la Coopération Gerd Müller. À cette occasion, le commissaire européen annonce une nouvelle aide à la RCA de montant de 81 millions d'euros pour des programmes d'éducation, de santé et de nutrition.
Le verdict dans le procès de Pascal Simbi Kangwa sera connu demain. Il est jugé depuis le 4 février devant la cour d'assises de Paris pour complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. L'accusation a requis la réclusion à perpétuité. Au micro de Jacques Aristide, Florent Gel, directeur du bureau Afrique de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, résume les raisons avancées par l'avocat général pour justifier cette requête.
Sur la gravité des crimes qui ont été commis, sur le témoignage d'un certain nombre de témoins et sur le fait que Pascal Simbi Kangwa a été identifié comme un haut responsable dans le système génocidaire rwandais et dans un réquisitoire d'une force et d'une justesse rarement égalée en France sur ce type de crime. Le parquet a donc réclamé cette réclusion criminelle à perpétuité qui est, semble-t-il, la peine adaptée aux crimes qui ont été commis et qui ont été démontrés au cours du procès. Ils ont adopté une défense finalement assez classique en minimisant et le rôle et l'action et la place de Simbi Kangwa dans l'organigramme. Mais en tout cas, ce sera demain que devra être rendue cette décision absolument historique.
Florent Gel de la FIDH, joint dans la capitale française.
Sommet de l'IGAD à Addis Abeba, l'autorité intergouvernementale pour le développement annonce le déploiement de troupes africaines au Soudan du Sud. Cela fait trois mois que les soldats fidèles au président Salva Kiir s'affrontent aux rebelles de Riek Machar, l'ancien vice-président. Le point avec Lionel Gaïma.
À en croire les dirigeants réunis dans la capitale éthiopienne, ces troupes devraient commencer à arriver au Soudan du Sud dès la mi-avril. L'IGAD, chargée de la médiation dans le conflit, doit maintenant discuter de la taille du mandat de cette force de stabilisation et de protection. Seyoum Mesfin est le principal médiateur.
The mandate is protection and deterrence. They will protect the mechanism for
C'est un mandat de protection et de dissuasion. Ils protégeront aussi les mécanismes de surveillance du cessez-le-feu. Ils seront aussi là pour dissuader toute attaque dans les zones d'une importance capitale pour le pays. Le Kenya, l'Éthiopie, le Rwanda et le Burundi vont envoyer des troupes et peut-être même Djibouti. Chaque pays est également invité à préparer une force de réserve dans sa capitale dans le cas où les forces sud-soudanaises auraient besoin de renforts. Cette demande de déploiement a été envoyée à l'Union africaine et au Conseil de sécurité des Nations unies. Si elle est approuvée, elle sera financée par la communauté internationale. L'organisation est-africaine tente par ailleurs de relancer les pourparlers de paix. Un cessez-le-feu a été conclu en janvier, mais a été violé à plusieurs reprises par les deux parties.
La communauté internationale avertit que le Soudan du Sud fait face à une possible famine si le conflit ne prend pas fin rapidement. Les troupes gouvernementales et les forces rebelles sud-soudanaises ont signé un cessez-le-feu, mais les combats se poursuivent.
En Somalie, les forces de l'Union africaine annoncent de nouvelles avancées face aux islamistes d'Al-Shabaab. La MISOM affirme que les soldats djiboutiens ont pris le contrôle de territoire dans la région de Hiran, au nord de la capitale.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retour sur la mystérieuse disparition du Boeing 777 de Malaysia Airlines. Les recherches se poursuivent depuis samedi. Hier, des images satellitaires avaient montré des débris qui seraient ceux de l'avion. Information démentie aujourd'hui. Bagassi Koura.
Les autorités malaisiennes affirment que les images satellites de la Chine ne représentent aucun des débris de l'avion. Celles-ci montrent ce que les médias pensent être trois objets assez gros près de la trajectoire originelle du vol de l'avion vers Pékin. Les responsables malaisiens ont aussi rejeté l'idée selon laquelle le Boeing de la compagnie Malaysian Airlines aurait continué à voler pendant des heures après avoir perdu contact. Le ministre des Transports Hishamuddin Hussein a déclaré ce jeudi que la compagnie Malaysian Airlines a demandé à l'avionneur Boeing et à Rolls-Royce qui fabriquent le moteur d'analyser les données suggérant que l'avion aurait volé plus de 4000 km supplémentaires pendant 4 heures. Il affirme que les deux constructeurs ont indiqué que ces informations étaient incorrectes. Ce jeudi, les avions de recherche de la Malaisie et du Vietnam ont survolé la zone de la mer de Chine méridionale et n'ont rien trouvé. L'avion qui reliait Kuala Lumpur à Pékin avait à son bord 239 passagers.
La chancelière allemande Angela Merkel a averti la Russie de massives répercussions politiques et économiques si elle ne change pas de direction en Ukraine. Les précisions de Michel Joseph.
Dans un discours devant le Bundestag, Mme Merkel a affirmé que l'intégrité territoriale de l'Ukraine n'est pas négociable. La mise en garde de la chancelière allemande fait écho à l'avertissement lancé hier par le président Barack Obama, qui a dit que l'Occident prendra des mesures contre Moscou si l'ingérence russe dans les affaires ukrainiennes continue. En recevant à la Maison-Blanche le premier ministre intérimaire de l'Ukraine, M. Obama a souligné que Washington rejette totalement le référendum prévu pour dimanche en Crimée sur le rattachement de ce territoire à la Fédération russe. Même position du côté des pays membres du G7. Par ailleurs, l'un des principaux représentants de la minorité musulmane, Tatar, en Crimée, a dit au président Vladimir Poutine que la sécession de la Crimée serait une violation du traité international qui enjoint la Russie, la Grande-Bretagne et les États-Unis de sauvegarder l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Dans un entretien avec la VOA, Mustafa Djemilov dit avoir fait savoir au président Poutine que le meilleur moyen d'éviter des confrontations serait le retrait de ses soldats de la Crimée. Leur position diffère sur la crise ukrainienne, a ajouté Djemilov. La plupart des Tatars, qui représentent environ 12% de la population criméenne, sont fermement opposés à l'annexion de leur région par la Russie. Ils souhaitent rester sous le contrôle de Kiev.
Le djihad islamique, un groupe radical palestinien dans la bande de Gaza, annonce l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu avec l'armée israélienne. Cette trêve négociée par l'Égypte devrait mettre fin à 2 jours d'attaque à la roquette contre Israël et des frappes aériennes contre l'enclave palestinienne. Le gouvernement israélien n'a pas encore réagi, mais un haut responsable au ministère de la Défense a fait savoir ce matin qu'il s'attendait à la cessation prochaine des affrontements. Dans une conférence de presse à Bethléem, le président palestinien Mahmoud Abbas, qui ne contrôle que la Cisjordanie, a condamné l'escalade de la violence à Gaza et dans ses environs.
La Chine et les États-Unis devraient se concentrer sur leurs intérêts communs en vue d'améliorer leurs relations, a déclaré le Premier ministre chinois. Prenant la parole après la clôture du Congrès national du peuple chinois, Li Keqiang a rappelé l'existence de divergences dans toute coopération, mais... S'il y a un respect mutuel, si l'on prend en compte les intérêts fondamentaux de l'autre et ses préoccupations majeures, si nous gérons bien nos désaccords, alors nous serons en mesure de relever le niveau de nos relations bilatérales, a dit le Premier ministre chinois. Les États-Unis et la Chine représentent les deux plus grandes économies du monde, avec des échanges commerciaux annuels de 520 milliards de dollars.
Pyongyang rejette toute responsabilité dans l'affaire d'un pétrolier battant pavillon nord-coréen qui transporte du pétrole volé et vendu par des rebelles libyens. Le gouvernement libyen a tenté d'arraisonner le navire, mais celui-ci a pu s'échapper pour rejoindre les eaux internationales. La Corée du Nord dit avoir signé un contrat de 6 mois avec une entreprise égyptienne qui a ignoré sa demande de quitter le port libyen d'As Sidra sans aucune cargaison de pétrole. Ce port est sous contrôle des rebelles libyens.
L'espoir diminue de retrouver d'autres survivants de l'explosion hier de 2 immeubles d'appartements à New York. 7 morts ont été dénombrées dans l'incident qui a aussi fait au moins 63 blessés. 9 personnes sont portées disparues.
Et pour finir, une nouvelle insolite en Thaïlande. Une 10aine d'éléphants étaient conviés à un buffet aujourd'hui, fruits et légumes à gogo. Il faut dire que le pays célébrait la journée nationale de l'éléphant, un animal vénéré en Thaïlande. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique, au micro Morgane Guiriec et Chérubin Dorcil. La tension monte au Nigeria en raison d'une pénurie d'essence.
Les automobilistes grognent, Morgane, et pour cause, le Nigeria, premier exportateur de pétrole en Afrique, fait face à une flambée des prix à la pompe. Le gouvernement accuse les distributeurs véreux d'être à l'origine des pénuries, Jean-Roger Bion.
Acheter de l'essence au prix subventionné dans la ville de Benin City, dans le sud du Nigeria, relève de la gageure. Les clients sont obligés d'attendre des heures durant dans les files sous un soleil de plomb. Celui qui ne veut pas emprunter ce chemin de croix devra débourser 30% en plus pour se servir dans d'autres stations de Benin City ou acheter du carburant de moindre qualité sur le marché noir avec tous les risques. Pour les automobilistes, c'est moins le prix de l'essence que les conditions d'attente qui les fâchent. Ojo Odiasi.
Regardez-moi, je transpire même maintenant. Avant de voir le carburant, on traverse un long moment de stress. C'est tout simplement ça. Voilà.
En dépit de la frustration, de la corruption ambiante et des VIP qu'on fait entrer par la porte arrière, la station reste calme. Tout le monde sait que la moindre altercation pourrait rapidement dégénérer. Le Nigeria est un grand producteur de pétrole, mais les Nigériens disent qu'ils ne voient pas les bénéfices de la rente pétrolière du pays. Pour en rajouter à ce qu'ils considèrent comme une imposture, le pays doit importer du carburant parce que ses 4 raffineries vétustes ne peuvent plus en produire assez. Le ministère nigérian du pétrole accuse certains distributeurs de carburant et des chauffeurs de camions-citernes de créer une pénurie artificielle pour faire monter les prix. Raymond Okoro, un professeur de sciences politiques à l'Université de Bénin, dit que la corruption à tous les niveaux est responsable de la pénurie et il fait porter le chapeau au gouvernement.
En 10 ans, c'est le plus haut niveau de frustration. Ce n'est pas seulement la question de la pénurie de carburant qui a déclenché cette frustration. Il y a plusieurs autres facteurs socio-économiques. Le taux de chômage élevé, les pannes d'électricité constantes, l'insécurité et le sous-développement sont d'autres questions exaspérantes.
Si la pénurie de carburant perdure, elle pourrait compromettre, selon cette universitaire, les chances du président Goodluck Jonathan à la réélection en 2015. En 2012, des manifestations ont éclaté dans tout le pays lorsque le gouvernement nigérien a annulé la subvention nationale de carburant. Le prix du transport et de la nourriture avait doublé, puis triplé. L'indignation publique avait forcé le président Jonathan à rétablir partiellement les subventions.
Des déplacés internes dans le monde sont des femmes et des enfants. Le Centre de surveillance des déplacements internes souligne que ce sont les filles qui paient le plus lourd tribut lors de conflits armés.
Nathalie Barge a contacté à Genève Sophie Crozet du Centre de surveillance des déplacements internes.
Dans les 50 pays dont nous faisons la surveillance, la majorité des déplacés internes sont des femmes et des enfants. Ce sont malheureusement des pays où les femmes et les enfants font l'objet de discrimination et peinent à avoir accès donc aux services de base et à leurs droits fondamentaux en temps normal. Le déplacement interne lié au conflit, lié aux violations des droits de l'homme, exacerbe cette situation et les rend encore plus vulnérables aux discriminations et aux violences. Les jeunes filles sont d'autant plus vulnérables et à risque d'être victimes de violences, par exemple d'abus ou de trafic. Et l'absence d'intimité, l'absence d'endroits ou de zones sécurisées pour les femmes et les jeunes filles contribue à exacerber ces problèmes.
Pourrait-on commencer par la Centrafrique, justement ?
Oui, il faut savoir qu'actuellement, 70% des élèves en Centrafrique sont déscolarisés. Donc on note une interruption brutale de la scolarisation pour les enfants, ce qui est d'autant plus dommageable pour les jeunes filles qui ont d'ores et déjà beaucoup de problèmes pour avoir accès à l'éducation. Il faut savoir qu'il n'y a que 58% des jeunes femmes centrafricaines qui sont alphabétisées et le déplacement, la fermeture des écoles et l'insécurité généralisée qui empêche les élèves d'aller à l'école va avoir un impact très important pour la scolarisation des jeunes filles. Elles sont encore plus à risque d'être mariées ou de tomber enceinte plus jeunes.
Vous avez des recommandations notamment en ce qui concerne la protection des enfants non accompagnés parce que finalement ce sont les plus vulnérables.
Tout à fait, les enfants non accompagnés et les enfants séparés sont les plus vulnérables, notamment vulnérables aux enrôlements forcés par les groupes armés, ce qui est malheureusement le cas en République démocratique du Congo. C'est pour ça que nous recommandons la mise en place le plus vite possible d'éducation dans l'urgence, de programmes d'éducation dans l'urgence pour pouvoir poursuivre un cursus normal, ce qui est important pour les jeunes filles, mais aussi d'être protégées contre les enrôlements forcés. L'école constitue un outil de protection important. Ça occupe les enfants et les enfants sont sous la surveillance d'une équipe éducative pendant la journée.
Sophie Crozet, formatrice et conseillère juridique au Centre de surveillance des déplacements internes.
Parlons ce soir de l'utilisation des minerais en provenance des zones de conflit, notamment de la République démocratique du Congo.
Il y a 4 ans, les États-Unis ont adopté la fameuse loi Dodd-Frank qui encadre strictement les activités en la matière. Cette semaine, une conférence s'est tenue au Sénat américain pour faire le point sur son impact en RDC. Reportage à Washington de Nicolas Pinault.
Parmi les orateurs présents ce jour-là, Brian Ksarnich, le PDG d'Intel, le géant informatique. Au micro, il garantit que sa société n'utilise aucun minerai provenant de mines contrôlées par des groupes armés. Ces derniers se servent de ce juteux commerce pour s'acheter des armes et proliférer dans l'est de la RDC. Intel sert un peu de modèle en la matière et encourage depuis 2009 ses concurrents à suivre son exemple en matière de transparence. Un processus pourtant compliqué qui a pris des années, comme l'explique Caroline Duran. Elle est en charge de ces questions chez Intel.
Au début, personne ne savait. Ils achetaient juste des minéraux qui se retrouvaient plus tard dans nos produits. Donc il a fallu cartographier toute la chaîne d'approvisionnement. Parfois, personne n'avait d'infos. Nous avons contacté directement les hauts fourneaux pour leur dire que nous voulions de la transparence. Il a fallu les convaincre de participer puisqu'il n'y a pas de loi dans la plupart des pays qui requiert la transparence.
L'Union européenne envisage de se doter d'une loi similaire. Rappelons qu'en 2010, le Congrès américain a adopté la loi Dodd-Frank qui contraint les sociétés cotées aux États-Unis de prouver qu'elles n'ont pas financé les conflits dans la région des Grands Lacs. Écoutons Sacha Lesneff, chercheur au ENAF Project.
La loi Dodd-Frank oblige les entreprises à ne pas financer les conflits par l'achat de certains minerais et à signaler la provenance des minerais. La prochaine étape, c'est pour la CIRGL de finaliser toutes les étapes du processus de certification.
De son côté, Faïda Mitifou, ambassadeur de la RDC aux États-Unis, insiste pour que la transparence s'applique aussi aux États voisins du Congo.
Un pays comme la RDC exporte moins que le Rwanda ou même le Burundi. C'est quelque chose qui fait tiquer, parce que même depuis la mise en application de la loi Dodd-Frank, ces pays ont continué à exporter des minerais du Congo. Donc on espère qu'avec le processus de certification auquel le Rwanda a adhéré, nos voisins vont comprendre qu'en opérant dans la légalité, dans la transparence, que cela va attirer beaucoup plus d'investissements et ça va créer des opportunités non seulement au Congo, mais aussi dans leurs pays respectifs.
L'ambassadeur Mitifou souligne aussi que la question minière a un impact sur les communautés rurales et qu'on ne peut pas fermer les mines suspectes du jour au lendemain, sous peine d'offrir de nouvelles recrues aux groupes armés.
Peut-être un nouveau moyen de protection plus pratique contre le VIH. Les chercheurs ont mis au point un gel vaginal qui pourrait être appliqué par les femmes, même après des rapports sexuels, ce qui pourrait encourager son utilisation. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Dans une expérience conduite sur un groupe de macaques femelles, le gel était efficace à 84% contre une infection au virus de l'immunodéficience simienne, virus similaire au VIH. 4 des 6 animaux ont été traités jusqu'à 3 heures après avoir été exposés au virus sans diminuer leur niveau de protection. Les macaques du groupe ayant reçu un placebo ont été infectés. L'étude, dont les résultats ont été publiés dans le journal Science Translational Medicine, est la première à démontrer l'efficacité d'un microbicide après des rapports sexuels. Walid Henaine, de la division de la prévention du VIH-Sida au Centre américain de prévention et de contrôle des maladies, en est l'un des principaux chercheurs. Selon lui, le produit expérimental qui contient l'antirétroviral Raltegravir agit en empêchant le virus, une fois dans le corps, de s'intégrer aux cellules et de s'y multiplier.
And we showed that this step takes more than 6 hours, and therefore there is.
Et nous avons montré que ce processus prend jusqu'à 6 heures, fournissant ainsi suffisamment de temps pour un traitement avec le gel vaginal. Et nous avons démontré que chez les macaques, cette approche est efficace et protège les animaux contre l'infection, a-t-il expliqué. L'équipe de recherche a aussi découvert que les animaux utilisés dans l'expérience ont été protégés lorsqu'on leur a appliqué le gel une demi-heure avant l'exposition au virus de l'immunodéficience simienne. Toutefois, avant d'entamer les essais cliniques, les chercheurs doivent s'assurer que le nouveau produit peut protéger les êtres humains contre le VIH. S'il s'avère efficace, il offrirait aux femmes un grand avantage. Elles n'auront pas à négocier avec leurs partenaires pour l'utiliser et pourront se protéger ainsi contre le VIH, souligne Melissa Robiani, directrice de la recherche biomédicale HIV à New York. Mesurer le degré d'acceptation et d'utilisation du gel constituera une importante part des essais cliniques quand ils commenceront.
L'actualité sportive sur la Voix de l'Amérique ce soir, c'est avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir cher Rubin.
Alors en football en Europe, on joue la Ligue Europa.
Et oui, les huitièmes de finale aller à quelques minutes de la fin des matchs. Valence mène 3-0 sur la pelouse du Lugo Drodrets Razgrad, c'est pas facile à dire. FC Bâle Salzbourg 0-0. Et puis pour le moment, la courte victoire du FC Porto sur Naples 1-0. Le coup d'envoi dans quelques minutes à 20h temps universel en même temps que le RM Show. Lyon Victor Liapsen, le FC Séville contre le rival, le Betis Séville, Juventus de Turin contre la Fiorentina, Tottenham contre Benfica et Akhmar contre Anzi Makhachkala.
Deux résultats à signaler dans la suite des matchs retour de la Ligue des Champions.
Au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a battu les Allemands du Bayer Leverkusen 2-1. On se souvient que les Parisiens avaient fait un carton 4-0. Ils passent donc facilement en quart de finale. Et en revanche, battu à l'aller 2-0 Manchester City, de l'Ivoirien Yaya Touré est tombé de nouveau à Barcelone 2-1. Les Anglais sont donc éliminés.
Et si l'on parlait basket, Nicolas, mon équipe s'est bien imposée, non ?
San Antonio qui s'est imposé face à Portland 103 à 90. Les vieux Texans hein, qui carburent toujours, notamment Tony Parker et Tim Duncan. Et puis Miami s'est de nouveau incliné face à Brooklyn 95-96. Victoire de Toronto sur Détroit 101-87. Les Pelicans de la Nouvelle-Orléans se sont inclinés contre Memphis 88-90.
Merci Nicolas.
Voilà, c'est l'heure de la musique avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane. Alors Morgane, on doit continuer avec Justin Bieber. Écoute, la suite sur l'affaire Justin Bieber, le chanteur canadien, subira son procès le 5 mai en Floride. Ici, on l'écoute dans Someone to Love.
One, giving you all this attention, baby, listen.
Justin Bieber est accusé d'avoir conduit avec des facultés affaiblies, d'avoir résisté à son arrestation et d'avoir conduit avec un permis expiré. Exactement. Et il plaide non coupable.
Exactement, Morgane. Enfin, je sais pas, mais je crois que Gabi n'est pas d'accord avec ça. Bon, on va poser la question. Mais écoute, des tests ont indiqué que le taux d'alcoolémie de Bieber s'est situé déjà sous la limite de 0,2 à 0,2 imposée aux conducteurs de moins de 21 ans. D'autres tests ont aussi cependant détecté la présence de marijuana et de Xanax dans son sang. Oh, je sais pas exactement c'est quoi Xanax.
Bah, c'est un tranquillisant, hein, mais il m'a l'air un peu jeune quand même.
On a pas, il faut avoir le docteur, la permission de
docteur. C'est pas très bon signe, c'est quand tu es aussi jeune, tu as besoin de prendre du Xanax, c'est que ça tourne
c'est que
pas
déjà...
très... C'est que ça va pas.
Bah. Mais trop jeune, c'est ça. On écoute un autre morceau de Justin Bieber.
My friends say I'm a fool to think that you're the one for me. I guess I'm just a sucker for love. Cause honestly, the truth is that you know I'm never leaving. Cause you're my angel sent from above. Me.
Voilà, c'était Justin Bieber. Merci Roger.
De rien Morgan.
Roger Muntou que vous suivez dans le RM Show tous les soirs à 20h temps universel. Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Michel Joseph a dirigé la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgan Guiriec.
Un grand merci à Tian Wang qui était à la console technique. Ici chez Robin Dorsil.
À demain.